Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Chabunda, au sud Kivu. Bienvenue à l'écoute du journal dont voici les titres. Cinq jours après le lancement des opérations de révision du fichier électoral par la CENI à Kungu dans le sud Ubangi, la quasi-totalité des centres d'enrôlement ne sont pas encore opérationnels. Pendant ce temps, la CENI affirme à travers son communiqué de presse d'hier mercredi s'activer à résoudre efficacement les problèmes jugés inhérents au démarrage des opérations d'une telle envergure. Au sud Kivu, dans les territoires de Chabunda, le pont sur la rivière Elila a été emporté depuis trois jours par les eaux de cette rivière en crue. C'est après des pluies diluviennes de ces derniers temps dans cette zone, alerte la communauté Lega du territoire de Chabunda. Du coup, les échanges économiques sont bloqués entre les habitants du milieu et ses environs. L'invité de ce journal est Eddie Yav, expert de la résolution 2250 et des questions sur les violences sexuelles et basées sur le genre. Il parle de la célébration du 22e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sous forme d'un échange entre les jeunes sur les acquis de la dite résolution. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cinq jours après le lancement des opérations de révision du fichier électoral par la CENI à Kungu, dans le sud Ubangi, la quasi-totalité des centres d'enrôlement ne sont pas encore opérationnels. À peine deux centres sur cinq prévus sont opérationnels jusque-là au chef-lieu du territoire. Vu la lenteur, la société civile sollicite un prolongement des opérations. La CENI, qui vient de réceptionner un grand lot de matériel hier à Guémena, est déjà à pied d'œuvre pour le déploiement. Le point avec vous, Paul-Richard Malengila.
C'est le dimanche 25 décembre dernier que seuls deux centres d'inscription sur cinq prévus ont été ouverts dans la commune rurale de Kungu. Ce jeudi, Emmanuel Bamolokola, représentant de la coordination de la société civile de Kungu, a eu sa carte parmi les enrôlés. Voici son constat.
Moi, je fais exactement 38 minutes pour que je finisse à partir de l'identification et consort jusqu'à la prise de la carte avec ce rythme. 40, c'est beaucoup.
Par jour?
Oui, oui. Parce que jusque-là, chez nous, le déploiement n'est pas encore fait. Sur plus de 200 et quelques centres d'inscription, il n'y a que deux centres au niveau de la commune ici qui opèrent. Donc, c'est la CENI qui continue à acquêter tous ces retards. Notre proposition est que la CENI puisse arriver d'abord à revenir à une durée soit de 1 mois ou de 3 mois.
Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Sud-Ubangi indique que la situation est en cours de solution, car les matériels aussitôt réceptionnés sont en cours de déploiement, ainsi que les OPS. Benjamin Dongo.
D'abord, les matériels doivent arriver au chef-lieu du territoire. Comme les matériels sont arrivés hier, aujourd'hui, ils vont augmenter les centres d'inscription.
Dans son communiqué du 28 décembre, la CENI a rassuré que les centres d'inscription dont l'ouverture a été retardés seront autorisés à récupérer les jours non prestés. Bandaka pour Chamalingue, la radio Okapi.
Et pendant ce temps, la Commission électorale nationale indépendante a affirmé hier mercredi s'activer à résoudre efficacement les problèmes révélés dans l'opération d'enrôlement des électeurs lancée dans les 10 premières provinces du pays. Dans un communiqué de presse, la centrale électorale assure avoir déployé ses équipes sur terrain pour une meilleure prise en charge de toutes ces difficultés qu'elle juge inhérentes au changement, au démarrage plutôt des opérations d'une telle envergure. La CENI a invité la population à ne pas se fier aux rumeurs et à la désinformation distillée dans les réseaux sociaux. Par la même occasion, cette institution d'appui à la démocratie rassure l'opinion publique ainsi que toutes les parties prenantes que les centres d'inscription dont l'ouverture a été retardé seront autorisés à récupérer les jours non prestés. Et puis, les députés provinciaux du Maniema sont invités à mettre fin à la crise observée entre l'Assemblée et l'exécutif provincial depuis le début de cette législature. Le président du bureau d'âge, qui l'a dit à l'occasion de la cérémonie de clôture de la session de septembre ce jeudi, a fait savoir que cette situation ne profite en rien à la population. Suivez plutôt Foreman, Makonga, Iki Claude dans des propos recueillis par Florence Kizalunga.
Il n'est secret pour personne que depuis le début de cette législature à ces jours, la province du Maniema a toujours été dans le collimateur. La crise de confiance entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale ne profite à la population qui nous a placer confiance. Mais au contraire, le temps passe et il ne reviendra plus. Ne savez-vous pas que chaque chose a son temps? Veillons mettre de l'eau dans nos vins pour que, désormais, nous puissions regarder dans la même direction, car la période accordée à notre bureau de la sagesse sera concluante, dont personne n'en sera dessus. L'air n'est plus à la distraction, car le 20 décembre 2023, les élections seront organisées et c'est conformément au calendrier déjà publié par la CENI. Ces jours-là, la population prendra son stylo rouge pour nous coter avec rigueur. Alors, mieux vaut tard que jamais, dit-on. Nous devons dépasser nos égos, tout en accordant la priorité des priorités à ce que le peuple nous impose de faire. Dans les cas d'espèce, notre population veut son développement qui passe obligatoirement par l'amour de la province que nous devons imprimer.
Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste tendue dans les groupements de Tongo et Bishusha, en chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru. Des affrontements récurrents sont rapportés entre les M23 et les milices locales dans cette région, occupée en grande partie par les rebelles. Nos sources parlent, entre autres, des affrontements qui ont eu lieu hier soir et ce jeudi matin à Mudugudu, en groupement de Tongo. Pour la société civile de Bishusha et Bukombo, les Nyatura CMC présents dans cette partie auraient tenté sans succès de déloger les M23 dans ce village. Les deux groupes se sont affrontés depuis 14 heures jusqu'au soir hier, avant de reprendre des hostilités très tôt ce jeudi. La société civile s'est dit inquiète de cette situation qui a causé d'énormes conséquences, notamment les tueries des civils et des violations des droits de l'homme dans la zone. Sous un autre chapitre, le mouvement de solidarité pour le changement, parti politique allié à l'UDPS, se félicite de la levée du régime de notification d'achat d'armes en faveur de la RDC. Dans une conférence de presse tenue hier mercredi à Kinshasa, Edouard Kabukapwa, porte-parole de ce parti cher à Laurent Batumona, a appelé les FARDC à reconquérir les territoires occupés par les M23 afin de pacifier cette partie du pays pour des élections inclusives en 2023. Il est au micro de Paul Matendo.
Le MC félicite les chefs de l'État pour les succès diplomatiques réalisés en obtenant des Nations Unies, de la France, de la Belgique et des États-Unis la condamnation du Rwanda, véritable agresseur de notre pays, et la levée de l'interdiction d'achat d'armes jadis imposée à la RDC. Le MC encourage les forces armées de la République démocratique du Congo de reconquérir les bastions actuellement sous occupation étrangère. Le MC félicite la CENI pour avoir commencé, tel qu'annoncé au travers du calendrier électoral, le début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le MC invite enfin la population à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège des ennemis du peuple qui tentent à déstabiliser les institutions de la République. À cet effet, le MC encourage la population en général et ses multiples membres à se faire enrôler massivement.
À Kisangani, poursuite des travaux du Forum de l'Unité, la paix, la cohésion et le développement. Après la présentation par des experts pendant les deux premiers jours des différents modules conformément aux thématiques retenues, le troisième jour a été consacré ce jeudi aux travaux en commission. Celle-ci se prépare les recommandations à présenter à la plénière pour appréciation avant leur prise en compte dans le communiqué final de ces assises. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Les participants se sont répartis en trois commissions en rapport avec les trois thématiques retenues. Ils y réfléchissent afin de proposer des recommandations, comme l'explique Jean-Stanny Bilanga, un des communicateurs de ce forum.
À l'issue des travaux en commission, on va se retrouver encore une fois en plénière où chaque chef de groupe ou chaque modérateur d'une commission va donner les résolutions ou les recommandations proposées en commission.
Au sujet de la sécurité, le professeur Patrick Tchombe, un des membres de la commission y afférente, pense qu'il faut réfléchir profondément sur cette question. La paix n'est pas que l'affaire du gouvernement, mais aussi de chaque individu dans la société.
Qu'on puisse arriver véritablement à jouer sur le mental de chaque citoyen, là j'aime la société de Touri, qu'on puisse réellement arriver à inculquer dans la tête de la jeunesse tourienne la notion de la paix, de la tolérance, de la justice.
Par rapport à la gouvernance, il est certain qu'elle connaît des soucis dans l'ensemble de l'espace Grand Oriental, reconnaît Sa Majesté Marcel Zuma, chef de la chefferie Gaïa en territoire de Bondo. Des solutions idoines s'imposent pour le bien-être de la population, dit-il.
Nous voudrions bien proposer des solutions de manière à ce que dans le futur, que nous puissions en fait avoir des animateurs compétents, capables à la tête de ces entités.
Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans le territoire de Chabunda, au sud Kivu, les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps sur la majeure partie de cette entité entraînent des dégâts matériels importants. Selon le comité directeur de la communauté Léga du territoire de Chabunda, les ponts sur la rivière Elila ont été emportés depuis 3 jours par les eaux de cette rivière en crue. Ce pont est situé à Mikaba, Kanyombo, dans le groupement Kulu, en chefferie de Wakabongo Premier. Il relie les groupements Kulu et Ikama Kasanza. Ainsi, les deux groupements restent coupés du bureau du chef-lieu du territoire de Chabunda et les échanges économiques sont bloqués entre les habitants de ces milieux. Le président de la communauté Lusu Léga de Chabunda lance un appel aux autorités pour la réhabilitation de ces ponts, aussi importants pour la population de Chabunda. Bienvenue à Béli, s'exprime au micro de Jean-Baptiste Ntonga.
Ces ponts datent depuis l'époque coloniale et depuis lors, il n'a jamais connu la réhabilitation par le gouvernement. Et donc, le plaidoyer que nous menons à l'heure qu'il est, c'est d'interpeller les autorités à tous les niveaux. Ces ponts se situent effectivement sur la route d'intérêt provincial, mais c'est seulement à 5 km de la RN2 à partir de Kalo-Lesese. Et donc, logiquement, les gouvernements provincial et central doivent s'impliquer pour voir en toute urgence comment jeter un autre pont là-bas pour permettre le retour du trafic entre les deux parties parce que c'est le territoire de Chabunda qui est coupé en deux. D'ici là, il y aura le déploiement de matériel d'enrôlement des électeurs. Si ce pont n'est pas réhabilité en urgence, ça risque de causer un sérieux problème dans le déploiement de matériel et donc il en va de soi et de la responsabilité de l'État que cela soit fait le plus urgentement possible.
Et dans les territoires de Lubero, Sud-Nord Kivu, une dizaine de véhicules restent bloqués sur le tronçon Kambaou, Ndiapanda, Mangourijipa, dans le secteur de Bapéré. Cette situation est consécutive à l'impraticabilité d'un tronçon routier long de 20 km sur cet axe. Le fonctionnaire délégué du gouverneur dans la zone plaide pour l'implication du gouvernement vu l'importance de cette route de desserte agricole. Des explications avec Grévis Salomou.
Des sources concordantes dans le secteur renseignent que c'est depuis le mois d'août dernier que cette route de desserte agricole est très délabrée et la situation est pire pendant la période pluvieuse. Ce sont les quelques usagers volontaires sur cet axe qui se donnent des fois aux travaux communautaires pour boucher certains trous. Conséquence, la zone est devenue enclavée alors qu'elle est d'une importance capitale pour la région. C'est de là en effet que passent les camions transportant des produits comme le riz, l'huile de palme, le haricot. Conséquence, la hausse des prix de ces produits sur les marchés des bouts Tembo. Makar Sivikunula, fonctionnaire délégué du gouverneur dans le secteur, plaide auprès du gouvernement pour la réhabilitation urgente de ces tronçons routiers afin de soulager la population.
C'est vraiment un cri d'alarme pour dire nos frères ne peuvent pas mourir alors que nous avons des darés ici qui risquent de pourrir suite à un problème de 20 km. Nous lançons un appel à notre gouvernement pour qu'il y ait une intervention vraiment rapide.
De ce côté, le chef du secteur de Bapéré, Maneno Kambaka, Kamba affirme avoir remonté cette alerte auprès de sa hiérarchie. L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alekiwewa, révèle pour sa part que des pourparlers sont déjà en cours avec une société qui pourra se charger de la réhabilitation de ces tronçons routiers dans un avenir proche.
Actualité internationale.
La Centrafrique a désormais une loi qui encadre l'organisation des référendums dans le pays. Ce projet proposé par le gouvernement a été adopté par acclamation hier mercredi par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une loi de plus, mais plutôt une recommandation de la Constitution, a expliqué le président de la commission loi et député de la majorité au pouvoir. L'armée de l'air ukrainienne dénonce des frappes massives de missiles russes ce jeudi sur plusieurs villes du pays, dont la capitale Kiev. Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes après des tirs provenant du système ukrainien de défense anti-aérienne, ont indiqué les autorités ukrainiennes. Plus de 100 missiles ont visé en plusieurs vagues l'Ukraine et les sirènes d'alarme anti-aérienne ont été entendues dans tout le pays.
L'invité.
L'invité de ce journal est Eddy Yav, expert de la résolution 2250 et des questions sur les violences sexuelles et basées sur le genre. Il parle de la célébration du 22e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sous forme d'un échange entre les jeunes sur les acquis de la dite résolution. Eddy Yav s'entretient avec Innocent Fazili.
Eddy Yav, bonjour.
Bonjour, monsieur Innocent.
Pourquoi cet échange entre jeunes sur les acquis de la résolution 1325 sur la femme, paix et sécurité en séjour?
Nous sommes le panel des experts de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sous les jeunes, l'appel à sécurité. Nous travaillons sous cet agenda depuis 2020 Et cet agenda Jeunes Paix Sécurité émane de la résolution 1325 Femmes Paix Sécurité. Et donc c'est une résolution sœur et nous sommes venus aujourd'hui dans ce Town Hall de la MONUSCO UTEX Afrique. C'était pour écouter le partage d'expériences de ces éminentes femmes que nous avons rencontrées aujourd'hui, notamment Marie-Madeleine Kalala, Madame Faïda Mwangilwa, toutes des actrices qui ont participé à la paix ou à la pacification de la RDC. Et en ce 22e anniversaire, il était donc obligatoire pour nous, comme acteurs, comme experts de cette résolution 2250, de venir acquérir les expériences, les écouter, afin que nous puissions également dupliquer ce qui est bon de leur parcours en tant qu'actrices de changement.
Pourquoi cette date?
Pour deux raisons. La première raison d'abord est que nous avons estimé que le mois de décembre, c'est le mois de droits de l'homme. Et donc tous les mois de décembre pour nous était un mois commémoratif de droits de l'homme. C'est à ce titre-là et aussi par rapport à la disponibilité et de la salle et des intervenantes. Nous avons voulu vraiment avoir les échantillons de ces femmes qui ont participé au dialogue intercongolais à Sand City et parmi elles, nous n'avons retenu que deux qui, en cette époque-là, n'étaient pas encore présentes le 31 octobre au moment où nous voulions célébrer. C'est maintenant qu'elles ont été libres à cœur ouvert.
Un peu de mots, qu'est-ce que la résolution 1325 et qu'a-t-elle apporté aux jeunes ainsi qu'aux femmes?
La résolution 1325 Femmes Paix Sécurité est un instrument juridique à caractère international qui promeut la femme, la paix, la sécurité, qui demande instamment aux États membres des Nations Unies de pouvoir placer les femmes aux instances de prise de décision. Et comme vous le savez, messieurs les journalistes, les problèmes des femmes sont les problèmes des jeunes. De la même manière, il y a absence ou quasi représentativité, inexistence de, presque ou le taux faible de la participation des femmes aux instances décisionnelles. C'est la même chose pour les jeunes. Donc s'il y a moins de 30% des femmes aux instances décisionnelles, c'est la même chose. Et d'ailleurs, pour les jeunes, c'est même pire. Les jeunes sont presque à 13%, c'est à peine à 13%, ils sont presque oubliés. La 1325 a apporté la place de choix des femmes aux instances décisionnelles. Aujourd'hui, s'il y a des femmes qui sont nombreuses aux instances décisionnelles, c'est grâce à la résolution 1325. Ça devrait l'être aussi le cas pour la 2250. Et comme vous le savez, ce n'est qu'une résolution jeune. C'est le 9 décembre que nous avons célébré toujours dans ce Town Hall le 7e anniversaire. Donc 22 ans plus tard, pour la 1325, on a quand même ces avancées significatives où à l'Assemblée nationale, par exemple, les femmes étaient représentées à hauteur de 8%. Aujourd'hui, elles sont à 13%. Au Sénat, par exemple, lors du régime passé, c'est à peine qu'on avait 3-4 femmes au Sénat. Aujourd'hui, elles sont presque 17, je sais pas combien. Donc, on estime que petit à petit, les dirigeants commencent à se rendre compte que tiens, on ne peut pas conjuguer les efforts seulement avec les hommes. Il faut aussi prendre les femmes et ils s'y prennent tant bien que mal et nous les encourageons à faire pareil.
Quels sont les défis auxquels vous faites face?
Le tout premier défi que nous avons en tant que membre du panel d'experts pour la 2250, c'est la méconnaissance des instruments juridiques protégeant les jeunes et les femmes à travers le continent. Le deuxième défi, c'est la méconnaissance des dirigeants par rapport à cela. Lorsque vous leur parlez des questions des jeunes, ils vous disent, oh là là, les jeunes, ils sont là, mais attendez, vous voulez qu'on vous fasse quoi? On vous a déjà tout donné, c'est à vous de vous battre. Donc, la minimisation de la contribution des jeunes. Et enfin, le tout dernier défi que nous avons, c'est le manque d'appropriation des instruments juridiques par les jeunes eux-mêmes à travers l'étendue du territoire national, parce qu'on dit que qui connaît ses droits les revendique et ne peut revendiquer ses droits que celui qui les connaît.
Que comptez-vous faire dans les jours à venir pour une bonne appropriation de la résolution 1325? Un peu de mots.
Par rapport à la résolution 1325, qu'on accompagne bien sûr avec la 2250, la première chose c'est continuer à dupliquer les informations sur l'ensemble du territoire national où il y a nos semblables. Donc la sensibilisation à grande échelle. Et une autre stratégie que nous avons utilisée et que nous comptons utiliser davantage, c'est le rapprochement entre les jeunes et les dirigeants. Parce que qui parle des problèmes des jeunes parle également des problèmes des femmes, comme je vous l'ai dit en début de mon intervention. Donc nous essayons de faire ça. Et parmi les ambitions pour l'année 2023, c'est travailler davantage pour la prévention des conflits liés aux élections.
Ediav, merci.
Je vous dis merci.
C'était l'invité de ce journal, Ediav, expert de la résolution 2250 et des questions sur les violences sexuelles et basées sur le genre. Il s'entretenait avec Innocent Fazili. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Capi.